pour tous les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. L'extraordinaire collection jazz et blues renferme des pépites. Entre beaucoup d'autres, Champion Jack Dupré. Pianiste et chanteur, il a été l'un des bluesmen les plus célèbres de New York avant de s'expatrier en Europe. Figure influente du blues new-yorkais d'après-guerre, le pianiste-boxeur formé à la Nouvelle-Orléans avait gagné ses premiers galons à Indianapolis. Il côtoya les premiers rockers anglais lorsqu'il s'établit définitivement en Europe. Avec ce morceau, on revient à l'atmosphère lancinante habituelle du blues pour ce « No Tomorrow », très déchirant, dont le titre même, « Sans lendemain », laisse percer toute la désespérance du chanteur. Comme souvent dans la vie, on pense à implorer l'autre une fois qu'il est trop tard. « Ne me trompe pas, ne m'abandonne pas, je t'en prie, ne t'en va pas ». De toute évidence, le mal est déjà fait et la compagne du chanteur n'a pas attendu ses supplications pour se faire les valises. Il ne reste alors à Dupré que le blues pour conjurer sa souffrance en tentant de se persuader que la rupture n'est pas irrémédiable.
Darling, I love you.
À la fois boxeur et musicien, Champion Dupré a mené une vie riche en aventures et en succès avant de s'improviser ambassadeur du blues sur le vieux continent. Ville marquée par le piano, la Nouvelle-Orléans a connu des virtuoses bien avant que Fats Domino et Alain Toussaint ne deviennent des stars. En leur temps, ils ont fait leur classe auprès des professeurs, disparus trop tôt pour avoir laissé des témoignages enregistrés de leur savoir-faire. Fort heureusement, Champion Jack Dupré a gardé des souvenirs suffisamment clairs de sa jeunesse pour que toute trace ne soit pas perdue de ses pionniers. En particulier son maître à penser, le mystérieux Draven Down. Je ne lui connaissais pas d'autre nom, raconte Dupré. C'est lui qui m'a appris à jouer du piano et qui m'a fait connaître les Barrel House de la ville. J'étais trop jeune en principe pour y être admis, mais comme je l'accompagnais, ça ne posait pas de problème. Il jouait du piano et était debout à côté de lui pour chanter. Drive Em Down, c'était un peu mon père, car Jack Dupré est orphelin de père et de mère. Petit dernier d'une famille de 5 enfants, il a vu le jour à la Nouvelle-Orléans le 23 juillet 1909, mais il déclarait généralement être né le 4 juillet 1910, une date facile à retenir puisque c'est le jour de la fête nationale américaine. William Thomas Jack Dupré n'a en tous les cas que quelques mois lorsque ses parents périssent dans l'incendie de l'épicerie familiale. Un drame. Les aînés étant trop jeunes pour s'occuper de lui, il est placé au Colored Waif Home for Boys, un orphelinat qui avait accueilli peu auparavant le jeune Louis Armstrong. Jusqu'à l'âge de 14 ans, Dupré grandit là, privé de toute affection familiale, comme il l'a souvent raconté par la suite. L'une de ses sœurs lui propose alors de venir habiter chez elle, mais les relations avec son mari sont tellement tendues que l'adolescent préfère mettre un terme à cette expérience. La période qui suit est particulièrement rude pour Dupré, qui devient chanteur de rue. Sur les trottoirs du Vieux Carré, il va faire la connaissance d'un gamin de son âge, nommé Richard Garner. Son père travaille pour une compagnie ferroviaire, tandis que sa mère élève ses 7 enfants. Lorsque les Garner se rendent compte que l'ami de leur fils est abandonné, ils se proposent tout simplement de le prendre chez eux. Popularisé en France par Serge Gainsbourg sous le titre de « Vieille canaille », cette composition signée Sam Turge a été introduite dans le répertoire de Louis Armstrong au tout début des années 30. Immense standard de la variété, « You, Rascal, You » est construit comme un blues, ce qui explique qu'un pianiste comme Dupré n'ait eu aucune peine à se l'approprier. Tout l'humour du texte repose sur l'ambiguïté qui régit les rapports de la « vieille canaille » et de celui qui l'apostrophe. « Je serai content quand tu seras mort », s'écrit le chanteur avec un brin de nostalgie qui trahit davantage une relation affectueuse que conflictuelle. Cette version, très bluesy, respire une extrême bonne humeur véhiculée par l'ensemble des accompagnateurs qui semblent s'en donner à cœur joie en prenant chacun à leur tour de longs solos exubérants. Au passage, on reconnaîtra la batterie pleine de swing d'Ensley Dunbar, qui prouvait par sa présence sur ses faces tout son attachement à la personnalité de Dupré.
Yeah, man, do you know what's been happening to me? What? Man, my friend been biting me in the back. What? Man, he been eating me up. What? Oh, man, he been chewing on me. Yeah, you know what's gonna happen now? Let's talk about it. Let's talk about it. You're ready? You're ready? All right.
Thank you.
Bubble, that's what they've been doing to me. Bubble, as to say. You rascal.
All together.
Jack n'entend pas être une charge inutile pour sa nouvelle famille. Et il rapporte chaque soir les pourboires glanés dans les cafés de Franklin et de Rampart Street. Dans l'un de ses bars, il va faire la connaissance de son mentor, Drive M. Down. Ce pianiste puissant parvient à se faire entendre dans le tumulte ambiant des barrel house locaux, comme Del Pass, The Cotton Club et le bar tenu par Sam the Wine Man, ou bien encore Tony's Place, le rendez-vous favori des dockers et des cheminots. Outre ses activités de chanteur et bientôt de pianiste, Dupré fréquente un club de boxe de Rampart Street, la Green Boxing School. Les rencontres auxquelles il participe sont les bienvenues. Je ne gagnais que $40 pour 6 rounds et 90 si je tenais 10 rounds, mais ça me suffisait pour me nourrir et m'habiller. À la fin des années 20, Dupré n'hésite pas à quitter la Nouvelle-Orléans pour tenter sa chance ailleurs. Sautant d'un train à l'autre, il découvre les principales cités du Nord. À Chicago, il fait la connaissance de Pine Top Smith, spécialiste du boogie-woogie, et de Blind John Davis, qui parfait son éducation. À Indianapolis, autre capitale du blues, Dupré rencontrera le célèbre duo formé par le pianiste Leroy Carr et le guitariste Scrapper Blackwell. Car c'est à Naptown que la carrière musicale de Dupré va pleinement s'épanouir quelques années plus tard. Lors de ses premiers voyages, il a traversé les années de crise à la Nouvelle-Orléans, alternant des engagements comme pianiste avec des combats qui l'ont mené à travers le Sud. Il commence cependant à se lasser d'un sport qui lui rapporte plus de coups que de dollars et il décide de raccrocher les gants en 1940. Il choisit alors d'aller pratiquer le blues à New York, d'où son ami, le pianiste cousine Joey Pleasant, revient avec Jean plat les poches. Fidèle à ses habitudes, Jack voyage clandestinement à bord d'un train de marchandises. Alors que le convoi traverse Indianapolis, Dupré est repéré par un agent de la compagnie ferroviaire. Contraint de sauter en marche, il trouve refuge dans les tavernes et les clubs de Naptown qu'il connaît bien. La scène musicale de la ville a bien changé depuis que Leroy Carr est mort en 1935 et que Scrapper Blackwell, anéanti par la disparition de son compagnon, a renoncé à la musique. Mais le guitariste et chanteur Little Big Gazer a pris le relais sur ses conseils. Jack Dupré tente sa chance, obtenant rapidement un engagement au célèbre Cotton Club. En quelques semaines, Jack Dupré s'impose comme l'un des artistes les plus en vue, prenant la tête d'une véritable revue qui comprend le duo comique Ophelia et Toots Hoy, le danseur Rubber Legs Williams, ainsi qu'une demi-douzaine de danseuses placées sous la direction de Hurt Dupré, son épouse. La réputation de Jack dépasse bientôt Indianapolis. Le producteur Lester Melrose est venu tout exprès de Chicago pour m'écouter, raconte-t-il. Il m'a proposé d'enregistrer pour lui et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers disques. De sa formation dans les barrel house de la Nouvelle-Orléans, puis plus tard de son expérience dans les clubs d'Indianapolis, Dupré a conservé cette capacité d'improvisation qui caractérise les meilleurs pianistes de la vieille école. Le public ne demandait pas tant aux artistes d'être des instrumentistes exceptionnels que d'être capable de le faire danser des heures durant sans jamais s'arrêter. La durée limitée des enregistrements 78 tours, 3 minutes au maximum, donne une idée très imparfaite de ce dont étaient capables les bluesmen à l'époque. Les pianistes les plus doués pouvaient en effet faire durer un boogie-woogie plus de 20 minutes, tandis qu'un titre lent pouvait dépasser la demi-heure. Le chanteur tirant de sa mémoire des couplets traditionnels qu'il enchaînait à l'infini. C'est un peu ce que fait Dupré dans le cas présent. En ayant recours à une litanie de vers passe-partout du type « Plus de soleil, plus de pluie, plus de mal au cœur, plus de douleur. Crois-moi, ce que je te dis est vrai. The earth of the blues is sound. »
Why do you hate me? Why do you mistreat me so? I always did love you. I hope you understand me. But if you don't want me, darling, I'll take my clothes and out that door I'll go. Because I know you have mistreated me. You have deceived me. But I still love you. I love you, darling. And how much I love you, you'll never know. Gone, you know I'll worry. Crying won't help me now. Please believe me. Don't deceive me. Oh, please, please don't go.
D'emblée, il s'impose auprès du public comme un parolier plein de verve et d'humour. Et la firme OK lui demande de revenir en studio quelques mois plus tard. C'est au cours d'une séance en janvier 1941 que sera enregistré Junkers Blues, qui inspirera plus tard le Fat Man de Fats Domino. Malheureusement, l'entrée en guerre des États-Unis met un terme temporaire à la carrière de Dupré. Il rejoint les rangs de l'US Navy, où il occupe les fonctions de cuisinier. Jack n'entend pas renoncer pour autant à la musique et il met à profit ses permissions pour prendre des contacts avec le monde du disque à New York où sa femme s'est installée. Démobilisé en 1945, il s'installe à New York où Ruth vient de mourir. Le jazz y est alors roi, mais il existe une petite scène du blues qu'anime effectivement Sonny Terry, Brownie McGee et son frère Stick, Joss White et le pianiste Big Chief Ellis. Dupré y tient rapidement un rôle de premier plan. Et il sera sollicité par une myriade de petites maisons de 10, comme Apex, Harlem Gotham, Apollo ou encore Lennox et Continental. Pour éviter tout problème de contrat avec ses différents commanditaires, il choisit des pseudonymes aussi colorés que Blind Boy Johnson, Light Nine Junior, Duke Bayou ou Brothers Blues. En 1953, Dupré est enfin remarqué par une compagnie plus importante, la firme King Records de Cincinnati. Cette fois-ci, le succès commercial est au rendez-vous et Walking the Blues devient un best-seller en 1955. La crème des musiciens de studio new-yorkais, de Mickey Baker à Larry Dale, sont présents sur la trentaine de faces que Dupré grave pour King. Cette réussite amène le pianiste à rejoindre en 1958 le label Atlantic, pour lequel il grave un album intitulé « Blues from the Gutter », qui lui vaut dès l'année suivante d'être invité à se produire en Grande-Bretagne. Curieux mélange de styles que ce « Heart Feeling », qui voit Dupré évoquait des thèmes, la solitude, la prison, plus ou moins autobiographie d'ailleurs, dans une ambiance proche du blues de Chicago où il n'a jamais vraiment résidé. La popularité d'artistes comme Muddy Waters et Howlin' Wolf à la fin des années 60 auprès du jeune public rock anglais explique que Jack ait tenté avec beaucoup de succès d'ailleurs une expérience comme celle-ci. Sa voix comme son piano évoque clairement Otis Spann ainsi que l'harmonica de Victor Brox rappelle celui de Little Walter disparu peu auparavant. Hard Feeling. Champion Jack Dupré est l'un des premiers bluesmen à se produire en Europe. Dupré fut aussi le premier à s'y fixer définitivement, résidant successivement en Angleterre, au Danemark, en Suisse, en Suède et en Allemagne. Comme le fait remarquer justement Gérard Herzhaft dans son encyclopédie du blues, les longs séjours en Europe sont souvent peu profitables artistiquement aux bluesmen, qui, coupés de leurs racines, finissent par se répéter à l'infini. Sur le vieux continent, Dupré a accumulé des albums dont aucun n'atteint le niveau de ses performances américaines. Parmi les dizaines de 33 tours gravés par Dupré au cours des 30 années de son exil volontaire, on mentionnera toutefois l'enregistrement de son passage à Montreux en 1971 qui le présente en compagnie du sax King Curtis. À défaut de poursuivre une carrière de créateur, Dupré finira par trouver en Europe la sérénité. Remarié à une Anglaise, il a longtemps vécu dans le nord de l'Angleterre, se découvrant même sur le tard une passion pour la peinture. Entre les concerts qu'il continue de donner au début des années 90, les expositions de ses œuvres et le restaurant qu'il a ouvert à Hanovre pour y recréer les saveurs culinaires de la Nouvelle-Orléans, la fin de sa vie sera celle d'un sage. Avec sa mort, le 21 janvier 1992, c'est près d'un siècle de l'histoire du blues et du jazz qui disparaît. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré par Roland Richard, pour vous, dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.